17h26 minutes, Rage Against le matin en ce vendredi 24 mai. Hier, on pouvait lire dans plusieurs médias qu'une entente historique venait d'être conclue en faveur des victimes de l'orphelinat Mondiouville. 65 millions de dollars pour près de 600 pensionnaires qui ont été victimes d'abus sexuels, physiques et psychologiques. Tenez-vous bien, là, entre 1925 et 1996. On va jaser de cette situation-là et de cette décision-là favorable pour les victimes avec un des avocats derrière le recours collectif, Jean-Daniel Kessy, qui est présentement au bout du fil. Maître Kessy, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être avec nous ce matin, Maître Kessy.
Plaisir.
Peut-être pour nos auditeurs et auditrices et pour le bien de tout le monde, avant qu'on rentre dans les détails cette décision-là, peut-être un petit peu la base, la situation, l'histoire du recours collectif face à l'orphelinat du Mondiouville.
Oui, ben nous, mon collègue et moi, Maître Saint-Gilet, on est dans un cabinet d'avocats à Québec. Et en 2018, on a déposé la demande introductive à ce moment-là, c'était M. Jean Simard qui était le représentant. On ignorait qu'il y aurait autant de victimes sur une si grande période et j'ajouterais qu'à ce moment-là, on ne savait pas non plus qu'il y avait des victimes, non pas d'hommes qui travaillaient au Mondiouville, mais bien de religieuses.
Right.
On a su ça plus tard et éventuellement le dossier, si je peux dire, a pris une ampleur qu'on n'aurait jamais prévu ou parce que là, des gens qui nous appelaient, qui avaient été agressés dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Le dossier a évolué depuis ce temps-là. On s'est battu, comme vous l'avez vu, jusqu'à tout récemment. On devait aller à procès en septembre, enfin, dans ce dossier-là, après plus de 6 ans. Et finalement, on a réussi, là, un blitz de négociation au mois de mai, on a réussi à régler le dossier.
Maître Kessy, quand on embarque dans un dossier semblable, puis là, on parle d'une entente historique, est-ce qu'on peut imaginer que lorsqu'on va creuser un petit peu, le trou va être aussi gros, puis je veux pas faire de mauvais jeu de mots, de mauvaise image, mais est-ce qu'on peut imaginer que le dossier et cette histoire-là va être aussi immense?
Ben, je vous répondrai de deux façons. Premièrement, dans les actions collectives en général, en demande, lorsqu'on prend des dossiers, on ne sait jamais vraiment sur quoi on est assis parce que le dossier commence avec une demande d'autorisation puis une victime qui est représentant. Alors, on ne sait jamais combien de victimes on va avoir, en tout cas dans les dossiers d'agression sexuelle ou physique, ça c'est certain. Fait que des fois, le dossier est moins important qu'on pense, des fois, il est beaucoup plus important qu'on pense. Dans le cas du Mondiouville, moi, j'ai été tellement étonné parce que je viens de la région de Québec, j'ai toujours été ici, puis le Mondiouville, c'est à Québec. J'ai jamais pensé que qu'il venait quasiment à côté de chez nous. T'sais, dans notre cour, il s'était passé ces choses-là. Puis autant récemment qu'au début des années 90, la fin des années 80, c'est quand même incroyable.
Est-ce que ça a pris 6 ans avant d'en arriver à cette entente à l'amiable? Comment était le comportement des sœurs de la charité puis du CIUS dans tout ça? Est-ce qu'il y avait une grosse fermeture au départ? Parce que on se questionne beaucoup sur le comportement des communautés religieuses à l'heure actuelle. Là. Surtout, là, on parle depuis ce matin là, de la fameuse vidéo là, du cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Là. Donc, quel était leur comportement pendant tout le processus?
Attention à ce que je vais dire. On a réglé le dossier, mais vous comprenez que ça a pris 6 ans, puis la menace d'un procès de 6 mois pour régler, vous comprenez que les avocats en demande, on était face à une opposition qui était, je vais dire, particulièrement ferme, puis je vais faire mon commentaire là.
Donc on y est en bloc, l'autrement dit. Là.
Oui, c'est ça, les défenses qu'ils ont... déposés au dossier sont publics. Puis on y lit essentiellement que pour eux, il n'est jamais arrivé d'agression d'un pensionnat.
Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu, puis tu sais, là, on le règle à l'amiable, puis on le fait parce qu'il y a plus d'avantages que de désavantages à le faire de cette façon-là, puis ça empêche de traîner les victimes dans des mois et des mois encore. Puis bon, là, on peut, entre guillemets, fermer le dossier. Mais est-ce qu'il y a quand même certains désavantages à régler ça-là, puis on dit, ouais, ben on procède, on aurait pu prouver certaines choses? C'est quelque chose qu'on a en tête?
Écoutez, quand vous parlez de moi, là, je vous le dis, c'est des années qu'on a sauté. Parce que là, un procès comme ça de 6 mois, vous pensez qu'il y a plein de questions qui peuvent se poser pendant le procès, qui peuvent faire l'objet de décisions qui, elles, peuvent aller en appel, tout comme le résultat aurait certainement fait l'objet d'un appel. Puis après ça, ben, il y a le processus de réclamation. Vous savez, l'action collective, le procès qu'on avait, c'est seulement la deuxième phase, c'est les questions communes. Si on gagne, après, il reste la troisième phase, c'est-à-dire des réclamations individuelles. Ça prend la forme, s'il n'y a pas d'entente, d'une série de mini-procès. Dans ce cas-ci, des centaines de mini-procès pour indemniser les victimes. Fait quand on dit des mois, la réalité, c'est que on a réussi à aller chercher un montant d'argent substantiel, mais qui fait en sorte que les victimes vont être payées beaucoup plus tôt. Là. Ça aurait pu durer encore des années, cette histoire-là. Fait que l'avantage, il est là. Maintenant, le désavantage, ben, si on peut appeler ça un désavantage, je pense qu'il est sur le plan humain. Pour certaines victimes, là, comprenez-moi bien, que ça leur a été très difficile pour elle de témoigner. Elle aurait été stressée, ça aurait pleuré, ça aurait été dur. Mais je pense que pour beaucoup de victimes, de témoigner devant le juge, ça aurait eu un effet peut-être libérateur, ou en tout cas, ça aurait aidé dans leur guérison, parce que vous savez, l'argent ne guérit pas des abus dans l'enfance puis une vie brisée.
Bien, j'allais justement dire, Maître Casey, vous êtes tellement bien placé pour en témoigner. On pourrait facilement dire, hey, 65 millions, ça change une vie, mais vous êtes bien placé pour en témoigner que ces victimes-là n'auront jamais le droit à une vie normale?
Ben non. Puis je veux dire, évidemment, chaque victime vit un peu différemment les conséquences des abus. Mais dans l'ensemble, quand je dis que la vie est détruite, là, c'est pas une exagération. J'ai des gens qui ont été institutionnalisés, qui ont passé leur vie en prison. C'est le cas du représentant du groupe. J'ai des gens qui ont eu des problèmes de dépendance, qui ont eu des tentatives de suicide, qui n'ont jamais réussi à avoir des relations amoureuses normales. Il y en a qui ne sont pas... Je pense à l'histoire de Frank Tremblay, des Rédemptoristes. J'ai entendu la même histoire de gens dans le monde du ville qui avaient de la misère à prendre leurs enfants dans leurs bras. T'sais, je veux dire, c'est des dommages que ça fait à l'humain. C'est immense, là.
Quel sentiment habitait justement les victimes hier? Parce que bon, il y a quand même une reconnaissance de ce qui s'est produit, mais d'un autre côté, il n'y a aucune excuse officielle de la part des Sœurs de la Charité. Fait que est-ce qu'on est un peu dans un sentiment là, partagé de « Ah, enfin, c'est réglé, mes crimes, jamais ils vont mentionner que j'ai été victime d'abus sexuels? »
Ben, écoutez, quand on dit les victimes, les membres du groupe, c'est beaucoup de gens. Vous comprendrez qu'hier, j'ai pas parlé à tout le monde. J'ai parlé à des gens qui étaient proches de notre équipe, qu'on connaissait bien, qui étaient heureux du règlement. Mais évidemment, d'autres pouvaient s'en inquiéter. Et j'ai parlé aussi à des gens à qui on n'avait jamais parlé, qui ont entendu hier pour la première fois qu'il y avait un recours contre le monde du ville. J'ai un appel sur mon cellulaire hier de quelqu'un qui pleurait, qui me disait qu'il n'avait jamais parlé à personne, puis que là, qu'il voit qu'il n'est pas la seule qui s'est arrivée. C'est ça que je pense que hier, les gens touchés par ça ont vécu plusieurs émotions différentes. Là. Dans l'ensemble, ce que j'entends, c'est que la réaction au règlement est positive.
Maître Casey, je sais que j'y vais peut-être dans les technicalités judiciaires, mais je voudrais poser quand même cette question-là. Est-ce que l'entente de 65 millions fait en sorte qu'on ne pourrait pas y aller avec des procédures criminelles envers certaines personnes?
Non. Ça n'a pas cet effet-là. La quittance prévoit évidemment que les sœurs et le CIUS ne peuvent plus être poursuivis, ni leurs employés ou membres de la congrégation. Là. Mais étant au civil, mais ça n'entrave aucunement le processus criminel. D'ailleurs, on ne pourrait pas donner quittance à quelqu'un qui commet un crime, ou du moins cette quittance-là n'aurait aucune valeur juridique là, au niveau d'accusation criminelle.
En terminant, M. Casey, j'ai effleuré le sujet tout à l'heure, mais hier, il y a le cardinal Gérald Cyprien Lacroix qui a fait une vidéo pour parler à une potentielle victime et l'inviter à déposer des accusations criminelles contre lui si elle croyait vraiment avoir été victime d'agression sexuelle. Comment vous trouvez le comportement du cardinal Lacroix?
Ben écoutez, je veux faire attention, je veux pas jouer aux belles-mères, là, comme on dit au hockey ou en politique, c'est pas mon dossier à moi, celui-là. Je trouve juste par contre que d'interpeller publiquement une victime comme ça, c'est peut-être pas le geste qui démontre la plus grande des compassions, on va dire.
Oui, en effet.
Maître Kay, hey, j'en profite pour une petite dernière, Maître Kay. C'est juste vous demander si cette entente historique peut ouvrir la porte à d'autres recours collectifs ou d'autres situations dans d'autres endroits semblables ailleurs au Québec?
Ouvrir des portes, c'est-à-dire que c'est sûr que plus le droit et puis la position du gouvernement, puis de la société, puis la vie des survivants d'abus sexuels dans l'enfance évolue, plus les indemnités qu'on va chercher sont grandes, puis plus aussi les victimes sont crues quand elles vont de l'avant. Alors, quand on règle comme ça, quand les gens lisent que plusieurs centaines de victimes sont venues de l'avant, puis que finalement, ils ont été crues, qu'il y a un règlement substantiel qui est payé, je pense que ça, comme vous dites, ça pave la voie à ce que d'autres victimes viennent de l'avant. Et je pense qu'il y a eu plusieurs actions collectives des dernières années visant des congrégations religieuses. Je me dis qu'éventuellement, on va avoir fait le tour de ces horreurs-là, puis qu'on va avoir nettoyé cette partie-là du passé. Mais oui, je pense que les victimes d'entendre que des agresseurs sont nommés sur la place publique, qu'il y a des recours qui sont réglés pour des sommes substantielles, je pense que ça va les encourager à aller de l'avant. Puis ultimement, c'est ça qui est important. Je vous dirais que dans ma pratique, j'ai parlé à beaucoup de victimes dans plein de dossiers. Puis la question monétaire, c'est souvent pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est souvent, un, d'être cru, puis deux, de savoir qu'ils sont pas les seules victimes.
Maître Jean-Daniel Kessy, un immense merci pour votre temps ce matin et cette jasette.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Merci.
Merci.
À vous aussi. Bonne fin de semaine. Wow. Jeez. Oh. C'est... hey, quelle discussion avec Maître Kessy et cette situation-là. Je vous rappelle, Maître Kessy, qui est un des avocats derrière ce recours collectif et une entente historique là, qui est en faveur des victimes de l'orphelinat Mondiouville. On parle ici de 65 millions.
Imagine tous les atrocités que c'est fait raconter.
Oh,
il vient d'aller chercher 65 millions et il n'est même pas capable d'être heureux.
Non.
Parce qu'il pense à toutes les victimes, à toutes les vies brisées. Puis il se dit, bof, finalement, 65 millions, c'est rien.
Ouh! Ouais, non.
J'ai les frissons dans le dos. Ouais. Tu sais, de là, moi, c'est son ton ce matin. Mm. D'entendre ce ton-là dans un moment historique positif pour des actions collectives contre des agresseurs sexuels, il demeure avec un ton perturbé.
Juste, tu sais, ça shake au bout. Là. D'entrée de jeu, j'avais présenté cette situation-là là, en vous rappelant que c'est près de 600 pensionnaires qui ont été victimes d'abus sexuels, physiques et psychologiques entre 1925 et 1996.
71 ans.
Dans notre cours.
Ouais. Ici à Québec.
Ouf. OK, on est à Rage Against le matin, boulevard 102.1, 7h39. On se fait une courte pause. Après la pause, êtes-vous parents? Est-ce que vos jeunes sont à un CPE? Êtes-vous heureux, heureuse de la situation et comment ça se passe dans le CPE de votre enfant? Si oui, vous êtes peut-être chanceux, chanceuse, parce que 41% de nos CPE n'ont pas obtenu la note de passage au niveau de leurs installations. Est-ce que ça vous surprend? On va en parler avec Joël Arsenault, qui est député du PQ. Restez là, vous êtes à Rage Against le matin. Jusqu'à 10h.